Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47, le comparateur des programmes avec ce matin Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation de la Recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et on va revenir sur ce matin. Le sujet, ce sont les candidats à la présidentielle sur la question de défense. Bonjour Agnès.
Bonjour Agnès.
Bonjour.
Effectivement, un sujet de la défense qui est en train de prendre toute la place. Mais est-ce que les candidats à la présidentielle avaient déjà des propositions dans leur programme, Agnès Verdier-Molinier ?
Eh bien, Benjamin, paradoxalement, hein, la proposition la plus récurrente avant tous ces événements de guerre en Ukraine était quitter l'OTAN. Hein. C'était la proposition qu'on retrouvait le plus, partagée à la fois par Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Et puis, de son côté, Nathalie Arthaud veut stopper les opérations militaires françaises. Et puis Yannick Jadot, stopper les ventes d'armes. Voilà. Puis de son côté, Anne Hidalgo, de renforcer le contrôle démocratique des opérations militaires extérieures par le Parlement. Une position sur laquelle Jean Lassalle est aussi aligné.
Quelles sont les propositions pour augmenter nos capacités de défense ?
Alors là, voilà, hein, ces derniers jours, tout le monde a commencé à s'intéresser un peu plus au sujet. Alors en France, hein, on dépense 41 milliards d'euros par an en défense. Alors c'est à peu près l'effort qui nous est demandé, hein, de 2% de la richesse nationale par l'OTAN. Mmh. Mais tout le monde commence à se dire que peut-être ces 2%, ça suffit pas et qu'il va falloir augmenter les crédits. Alors de son côté, Marine Le Pen propose 14 milliards de plus d'ici 2027, Éric Zemmour 30 milliards de plus d'ici 2030, Nicolas Dupont-Aignan propose d'augmenter de 10 milliards d'ici 2027 et de recruter 40 000 hommes sur la durée du quinquennat. C'est le seul à parler pour l'instant d'effectifs supplémentaires. Et Éric Zemmour et Valérie Pécresse proposent, eux, de construire un second porte-avions. Hein. On sait qu'on a un seul porte-avions aujourd'hui, le Charles de Gaulle. Alors, si on construisait un second porte-avions, hein, beaucoup pensent qu'il est nécessaire, ce serait un coût entre 4 et 6 milliards d'euros.
Des moyens supplémentaires, donc, et pourtant, l'actuel gouvernement avait déjà augmenté les moyens de la défense, non ?
Oui, alors ça a été un des gros sujets, hein, du début de quinquennat, on s'en souvient, avec le général De Villiers. Et la question sur le papier, oui, hein, Benjamin, on a dit qu'on allait vraiment augmenter les crédits pour la défense. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de moyens qui sont reportés après 2022, hein, sur les dépenses supplémentaires prévues. Et puis, il faut dire, pour l'instant, hein, dans les années où on a vraiment les chiffres de qu'est-ce qui a été dépensé, bah pour l'instant, il n'y a qu'en 2020 qu'on a atteint ces fameux 2% du PIB en dépenses de défense. Et c'était une année, on s'en souvient, d'effondrement de la richesse nationale. Donc, c'était plus facile à atteindre. Et quand on regarde les investissements militaires, et ça, c'est super important, hein, pour tous nos équipements, et puis, évidemment, tout ce qui va avec, on a une sous-exécution, c'est-à-dire qu'on dépense moins que prévu, et c'est quasiment systématique. Par exemple, en 2020, il y avait 26 milliards annoncés, et il y a presque 14 milliards qui n'ont pas été réalisés. Mmh. Et donc, des retards, hein, pour notre système de combat aérien, pour le remplacement d'un avion de surveillance et d'intervention maritime. Donc, il y a beaucoup d'équipements, finalement, qui sont retardés par ces non-décaissements de crédits qui ont été promis. Et rappelons que dans les années 60, la part de la richesse nationale consacrée à la défense, c'était entre 5 et 6% de notre richesse. Mmh. Et pendant ce temps-là, bah, c'est la dépense sociale qui a explosé. Donc, notre défense a été financée, disons, le financement a été divisé par 3. Et pendant ce temps-là, la dépense sociale a été multipliée par 2. Alors, bon, certes, on a une des meilleures armées, hein, en Europe. Mais c'est vrai que l'armée française et l'armée britannique sont les deux seules qui sont vraiment très, très aguerries et très, très bonnes sur notre territoire européen. Donc, on a dit tout à l'heure, hein, environ 40 milliards en France, 51 milliards, là, c'est des dollars dépensés chaque année par les Britanniques. Mais la Russie et la Chine ont des dépenses de défense qui sont gigantesques. Hein, 4% du PIB pour la Russie et 1,7% du PIB de la richesse nationale pour la Chine. Ça veut dire que la Chine, par exemple, elle dépense 221 milliards de dollars en 2020 pour sa défense, ce qui est gigantesque. Donc la question, c'est comment remettre à niveau les dépenses de défense, et ça va devenir un des sujets les plus importants de cette campagne présidentielle.
Et on le sent déjà, effectivement. Merci beaucoup, Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Il est 8h52 et aujourd'hui, le 2 mars, c'est la journée traditionnelle de l'Aveyron, au Salon de l'agriculture pour promouvoir les territoires et pour en parler ce matin. Deux invités, Arnaud Viala, bonjour, merci d'être avec nous ce matin, président du département de l'Aveyron, et Jacques Molière, merci beaucoup de votre présence, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron.
Bah oui, on a la chance de vous recevoir, parce que vous allez vous recevoir, donc Philippe David et les vraies voix tout à l'heure en direct.
Notre enfant.
À 17h sur Sud Radio avec toute l'équipe, bien sûr, des vraies voix. On a l'occasion de vous accueillir ce matin, ici dans ce studio de Sud Radio. Jacques Molière, j'imagine déjà que ce salon de l'agriculture, alors malgré le contexte, on aura l'occasion d'y revenir, c'était déjà important, après l'attente qui a été longue, cette édition l'an dernier qui avait été annulée, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'attentes et de plaisir à retrouver ce salon de l'agriculture.
Effectivement, beaucoup d'attentes et de plaisir de retrouver le salon de l'agriculture deux ans après. Puisque la dernière édition qui avait eu lieu avait été interrompue deux jours avant la fin. Je crois que les éleveurs avaient besoin de se retrouver, de pouvoir montrer comment le travail qu'ils travaillent tous les jours est effectif, et puis un travail de qualité, et de retrouver ce contact avec le grand public, au niveau de la Porte de Versailles. C'était très important, et je crois que Le public est au rendez-vous, les éleveurs le sont, j'espère que tout se passera bien toute la semaine.
Arnaud Viala, quel est l'impact finalement de ce salon de l'agriculture sur les territoires français aujourd'hui ?
Ben justement, c'est ce qu'on s'efforce de montrer dans cette édition 2022, qui est particulière, comme c'est une reprise, qui est aussi particulière parce qu'elle s'inscrit dans un contexte dont on n'aurait pas voulu, évidemment. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner du sens à la présence du département aux côtés de la Chambre d'agriculture sur le salon. C'est un salon grand public. Notre conviction, c'est que c'est en montrant à quel point agriculture, aménagement du territoire, vie d'un département comme le nôtre sont liés intrinsèquement, qu'on rend la présence des acteurs, collectivités et professionnels efficace, porteuse en termes d'attractivité. Un département, il se bat tous les jours pour être attractif. Nous, on a un enjeu démographique général. Il faut qu'on renforce la population du département, mais on a aussi un enjeu démographique agricole, parce qu'il faut qu'on incite des jeunes à s'installer dans nos exploitations. Il faut qu'on incite des jeunes venus d'ailleurs aussi à venir travailler dans les exploitations agricoles, parce qu'il y a un besoin de salariat. Et donc, tous ces messages, on vient les passer derrière les étendards des races, Aubrac et Lacaune.
Ça veut dire que suite au confinement, vous n'avez pas, vous, eu un retour positif de cette, je veux dire, transhumance, donc c'est un vrai mot.
Si, on a des frémissements, on a la sensation qu'effectivement, le côté positif du malheur de la Covid, c'est que le département est plus attractif. Mais nous, on ne veut pas se satisfaire de cette attractivité un peu mécanique subie. On veut être vraiment proactif, et on va chercher par tous les moyens toutes nos chances et tous nos atouts.
Jacques Molière, c'est l'occasion effectivement aussi d'avoir un petit peu plus l'occasion de prendre la parole aussi pour des territoires ruraux, agricoles, ce salon de l'agriculture, dans un contexte forcément particulier. Est-ce que vous avez réussi, ou l'impression d'avoir réussi quand même à avoir aussi cette visibilité-là pendant ce moment-là, justement sur un département comme le vôtre ?
Un département comme le nôtre, qui est un peu un département spécifique, c'est un département à forte connotation élevage, bien entendu.
Oui, tout à fait.
C'est un département où l'agriculture et l'agroalimentaire représentent la majeure partie de l'économie départementale. Et c'est un département où on a voulu, depuis déjà bien longtemps, une vingtaine d'années, voulu démarquer des produits, en donnant à ces produits agricoles aveyronnais une identité. Et ce qui nous permet, au Salon de l'agriculture, de promouvoir ce genre d'opération. En Aveyron, c'est l'agriculture de ce département et l'agroalimentaire. C'est un équilibre entre les hommes, bien entendu, qu'on a toujours privilégié, les hommes et les femmes qui font. Et Arnaud Viala le disait à l'instant, le challenge qu'on a sur les 10 ans à venir, c'est de renouveler les générations, de trouver des mains, que ce soit pour reprendre des exploitations, que ce soit pour accompagner les exploitations. Donc, je disais, un équilibre entre les hommes, l'économie, une forte économie agricole et agroalimentaire. C'est la première économie agricole et agroalimentaire de la région Occitanie, qui représente 22% de l'agriculture et de l'agroalimentaire d'Occitanie, se fait en Aveyron. Un quart sur un département, un département sur 13, c'est énorme. Donc, à partir de l'élevage, et on a conçu et les territoires. On veut aussi préserver nos territoires qui sont une force pour la deuxième économie des territoires, qui est le tourisme. Protéger cette mosaïque de territoire qui aussi est la force de l'Aveyron. C'est un peu le modèle d'une économie durable, d'une agriculture durable qu'on essaye de promouvoir en Aveyron depuis une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans. Et aujourd'hui, l'identité de nos produits est reconnue. Et le Salon de l'Agriculture permet aussi de promouvoir cette identité.
De rendre visible encore plus,
surtout le secteur parisien. Je prendrai un exemple tout simplement. Qui aurait cru qu'il y avait une race emblématique de l'Aveyron, qui est la race Aubrac.
Dites pour le Parisien, vous parlez plutôt des politiques aujourd'hui.
Je parle des politiques, mais je parle aussi des urbains sur Paris. La race Aubrac, qui est une race bovine emblématique du département, avait quasiment totalement disparu il y a 25 ans.
Ça, c'est dingue.
Aujourd'hui, sur les tables parisiennes, vous allez au restaurant à Paris, bien sûr sur les Aveyronnais de Paris qui tiennent des restaurants, mais aussi la race Aubrac est reconnue comme une race porteuse aussi. L'idée, c'est une race, un territoire, et tout ça faire fonctionner ensemble dans une économie de marché aujourd'hui, mais une économie de marché sur des produits bien démarqués, bien identifiés, avec une identité forte qui est notre identité.
Et ça marche, et c'est une belle réussite, en tout cas pour l'Aveyron. Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, et Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron, vous restez avec nous. On aura l'occasion aussi de parler, parce que ce Salon de l'Agriculture, il intervient aussi une année d'élection présidentielle. Bilan notamment d'Emmanuel Macron sur l'agriculture, ce sera l'occasion d'y revenir dans quelques instants, bien sûr.
Restez là, 8h59, c'est le Grand Matin Sud Radio.
Sud Radio présidentielle 2022.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Cécile, bonjour Benjamin.
Bonjour Eric. Bon, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur notre agriculture. On en parle, une nouvelle crise en perspective. Les prévisions pour les éleveurs, les agriculteurs français sont inquiétantes, hein, Eric.
Oui, alors c'est Revel en campagne ou Revel à la campagne en plein salon d'agriculture, même si le gouvernement promet des aides. Hein. Jean Castex a parlé hier d'un plan de résilience pour certains secteurs. En plein salon de l'agriculture, beaucoup de professionnels évidemment s'inquiètent dans les allées de la plus grande ferme du monde, éleveurs et agriculteurs en tête. Les éleveurs, on le sait, ont besoin par exemple de céréales pour nourrir leurs bêtes, par exemple de blé. Or, la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la tonne de blé a pris jusqu'à 85 euros. C'est considérable, évidemment, pour les éleveurs.
Oui, et pour être concret, cela va se traduire comment pour un éleveur qui a besoin de blé pour ses animaux?
L'effet sur le papier est dévastateur, Benjamin. Un élevage moyen de porc, je regardais par exemple, Breton a besoin de 1000 tonnes de blé par an. Si vous prenez cette augmentation, ce surcoût de 85 euros par tonne, ça fait 85 000 euros en plus à la fin de l'année. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Ou l'élevage ferme, il est en faillite. Ou le prix de production gonfle et le prix de revient aussi. Du coup, le prix du kilo de viande de porc va flamber pour le consommateur. Donc problème pour les agriculteurs. Mais problème aussi pour les consommateurs. On nous avait expliqué que l'inflation était passagère avec la crise sanitaire. Avec la guerre en Ukraine, en réalité, l'inflation, notamment sur le prix des kilos de prix de la viande, risque de durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense.
Éric Revel, il y a aussi l'augmentation des prix de l'énergie. Là aussi, concrètement, pour nos agriculteurs, ça veut dire quoi? Quelles sont les répercussions sur le prix des engrais, par exemple?
Oui, on peut prendre aussi un autre exemple concret. La flambée, par exemple, du prix des énergies gaz en tête va avoir un impact très fort sur le prix de certains intrants, comme les engrais, Benjamin. Pour les engrais, on a besoin d'azote, les spécialistes le savent. L'azote, c'est fait à partir du gaz. Avec l'envolée du prix du mètre cube de gaz suite au conflit en Ukraine et en Russie, le risque est évidemment une flambée du prix des engrais. Ou moins d'engrais dans les champs, mais avec des rendements de céréales, par exemple, à l'hectare qui vont chuter. Et si les rendements chutent, effet cumulatif, le prix de la tonne de céréales va de nouveau augmenter. Donc, vous voyez que les problèmes s'accumulent.
Malheureusement, l'agriculture française, vous entendez, est donc partie de nouveau pour souffrir, Eric.
Oui, l'agriculture française, on peut le dire, hein, et elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle est déjà en détresse. On le sait, l'agriculture française est entrée dans une forte nouvelle zone de turbulence avec cette guerre en Ukraine. D'autant que la France exporte aussi de l'agroalimentaire. Hein, c'est l'une des seules balances commerciales encore positives. L'agroalimentaire vers la Russie, c'est 800 millions d'euros par an. C'est 200 millions d'euros vers l'Ukraine. Vous voyez, ça fait 1 milliard d'euros pour ces deux pays, sans compter les entreprises françaises installés dans ces deux pays. Je pense par exemple au groupe Limagrain, au groupe Soufflet, mais aussi à Danone, hein, qui est très implanté en Russie. L'agriculture française, plus que jamais, Benjamin, a besoin de notre soutien. Les femmes et les hommes dans les champs, dans les étables, dans les fermes qui produisent français ont besoin de nous et de nos achats.
Merci beaucoup Eric Revel, vous restez avec nous. On va faire réagir justement nos invités, Jacques Molière, président de la Chambre de l'Agriculture de l'Aveyron, et puis Arnaud Viala, qui était toujours avec nous, président du département de l'Aveyron, et notamment sur ce que disait Eric Revel sur la question de l'élevage, des éleveurs avec ces céréales, avec l'augmentation des prix des céréales. Vous le disiez tout à l'heure, Jacques Molière, l'Aveyron c'est une terre d'élevage.
Une terre d'élevage, mais c'est aussi une terre où on produit. Depuis longtemps, on a privilégié l'adéquation sur le troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire produire sur le sol ce que le troupeau a besoin.
Ouais.
C'est aussi une norme de l'agriculture durable. C'est ce qu'on a essayé de privilégier en Aveyron depuis des années. Donc ça relativise un peu la crise pour les éleveurs aveyronnais. Bien sûr, les éleveurs de porc, et bien sûr, les éleveurs qui engraissent des animaux vivants auront besoin de céréales, puisqu'on n'est pas... Des producteurs de céréales en Aveyron, oui. il y en a un peu, mais très peu. Donc bien entendu, il y aura, mais en relativisant le problème que j'évoque par rapport à l'adéquation sur le troupeau, on a...
Donc sur l'Aveyron, ça sera amorti
en termes
d'une
de résilience, certaine façon. En termes de résilience, on le regarde, quand on le regarde sur plusieurs années, on regarde qu'on amortit les crises, qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles, elles sont amorties par ce schéma-là, qui est pour nous très important. L'Aveyron, c'est 520 000 hectares à la PAC, à la politique agricole commune, bien sûr produisant de l'herbe essentiellement, mais c'est 100 000 hectares qui produisent des céréales, pour produire des céréales encore, donc je veux dire, on est dans un schéma qui, dans cet équilibre-là que j'évoquais tout à l'heure, qui est important pour nous. Alors bien sûr, il y aura la crise, les Aveyronnais vont être touchés par la crise ukrainienne, bien sûr, parce que les céréales vont augmenter, bien sûr, parce que les charges, l'énergie notamment, va continuer sa marche en avant et augmenter. Mais on relativise cela avec ce que j'évoquais, cet équilibre-là qu'on est toujours pour nous constant en termes d'orientation et qu'on privilégie pour les éleveurs aveyronnais.
Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron, département plus protégé peut-être que d'autres face à cette crise du côté de l'Ukraine ? C'est le sentiment que vous avez
en tout cas. Alors ça va se mesurer peut-être un peu dans le temps et puis filière par filière. On a des filières qui seront plus touchées, celles pour lesquelles les intrants, notamment en céréales, sont importants. Évidemment, l'augmentation déjà très marquée. Là, j'entendais votre chroniqueur parler de 85 euros. On parle de presque 100 euros. La tonne sur le blé aujourd'hui. Donc certaines filières seront plus touchées, mais si on veut regarder les choses positivement, ça encourage une agriculture comme celle du département de l'Aveyron à poursuivre son chemin vers effectivement un côté raisonné, c'est-à-dire en lien avec les capacités du territoire, et aussi vers ce modèle qu'on veut promouvoir et qui d'ailleurs correspond bien aux standards qu'on veut pour la France, qui est celui d'une agriculture sur la cellule familiale, avec évidemment la possibilité de s'agrandir, mais une mesure dans la manière dont on conçoit l'implantation des fermes aujourd'hui sur notre territoire.
Arnaud Viala, plein de particularités dans ce contexte de Salon de l'Agriculture. On en parlait, il y a cette guerre en Ukraine notamment, il y a ce retour aussi du Salon après une édition annulée l'an dernier, une autre raccourcie il y a deux ans, et puis il y a aussi cette élection présidentielle tout simplement dans moins de 40 jours, le premier tour. C'est l'occasion aussi de dresser un bilan, tout de même, c'est important de le faire, sur ce quinquennat qui vient d'avoir lieu. Pour vous, au niveau de l'agriculture, il est plutôt positif, plutôt négatif ? Sur quel point ?
Moi, il faut que je vous dise que j'ai été député pendant quasiment la totalité du quinquennat, puisque je suis devenu président du département en juillet dernier. Et je pense que la façon dont l'agriculture a été considérée au cours de ce quinquennat est plutôt encourageante. C'est-à-dire que les décisions qui ont été prises ont été des décisions qui ont visé à restaurer à l'agriculture sa dimension économique, en ayant une véritable approche sur la rémunération de l'acte de production et du produit. Donc on n'est pas du tout au bout du chemin, mais moi, pour avoir été dans un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, je reconnais volontiers qu'il y a une amorce de travail sur la rémunération de l'acte de production et des produits, et singulièrement des produits de qualité comme ceux que nous avons la chance d'avoir en Aveyron, ouais, qui pour moi est le ferment de quelque chose qu'il faut évidemment poursuivre dans les 5 années qui arrivent, mais qui doit nous conduire à maintenir à la France sa place de leader dans le paysage agricole européen et même au-delà. Mmh. Et derrière ça, pour l'élu local que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une considération très très importante pour l'aménagement du territoire. On veut que la France continue d'avoir de la population partout, il faut qu'il y ait des agriculteurs partout. Et nous, on est vraiment le témoin de ça.
Mmh. Avant de donner la parole à Éric Revel, vous vouliez réagir, je sentais justement, par rapport à ce que disait Arnaud Viala à l'instant, Jacques Molière.
Non, je partage bien sûr ce qui a été dit, notamment... Je crois qu'on s'est aperçu dans ce pays que la variable d'ajustement entre l'acte de production, l'acte de transformation et de commercialisation était toujours par le passé la variable, l'acte de production était la variable d'ajustement. Aujourd'hui, les politiques de ce pays ont pris conscience de ça. La loi Egalim est passée par là, elle n'a pas donné les résultats qu'on escomptait. J'espère que la loi Egalim 2 pourra poursuivre l'orientation qui est pressentie à ce niveau-là, qui fasse que l'acte de production retrouve toute sa noblesse et bien entendu que la valeur ajoutée se reporte, cet équilibre-là, ce maître mot qui est pour nous le nôtre en Aveyron, qu'on retrouve cet équilibre entre l'acte de production, l'acte de transformation et
Le juste prix. D'une certaine façon. Éric Revel, le bilan de ce quinquennat au niveau de la filière agricole, il est plutôt positif, ça va plutôt dans le bon sens ou un avis un peu différent à ce sujet?
J'ai un avis un peu différent parce qu'effectivement, la loi Egalim 1, c'est pas un euphémisme de dire qu'elle n'a pas vraiment porté tous ses fruits. On sait que la grande distribution n'a pas vraiment joué le jeu. Donc ça, c'est une première chose. On verra la loi Egalim 2 si elle corrige ces effets négatifs. Et puis il y a un autre sujet aussi que j'adresse à vos deux invités, c'est la nouvelle politique agricole commune qui va rentrer, qui va être mise sur la table. Est-ce que cette PAC, messieurs, cette nouvelle PAC va dans le bon sens pour l'agriculture française, pour l'élevage ou pour la production de céréales ou pour les arboriculteurs aussi auxquels on peut penser, parce que il faut pas oublier que l'agriculture non seulement est en souffrance, je le disais dans l'éditorial, mais elle a subi aussi des gels considérables l'année précédente qui ont annihilé souvent les productions, et je pense notamment aux arboriculteurs. Alors la PAC, qu'en pensez-vous?
Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron, je le rappelle, déjà quel changement sur cette nouvelle PAC et votre avis, votre regard sur cette nouvelle PAC?
Juste avant de répondre sur la PAC, je voulais dire que je suis d'accord avec M. Revel. Tout n'est pas parfait, loin de là, dans ce qui a été fait dans le quinquennat. Et notamment vous sur les lois Egalim, on a besoin d'aller plus loin. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une question centrale, et ça sera le projet, j'espère, du futur gouvernement, c'est de faire en sorte que le consommateur soit amené à payer peut-être mieux le produit de qualité. Et ça... c'est une question qui doit se poser à travers notre schéma de la distribution en France. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais on a un vrai sujet, parce que les agriculteurs, quand ils se trouvent confrontés à la grande distribution, sont évidemment en difficulté. C'est ça que les lois Egalim 1 et, je pense malheureusement, Egalim 2 n'arrivent pas à résoudre complètement. Donc il faut aller plus loin. La PAC, en quelques mots, la PAC nouvelle génération, il y avait deux enjeux pour l'agriculture française. D'abord, conserver une place prépondérante dans le panier agricole européen. Ça, je pense que ça a été relativement bien sécurisé. Et puis, pour des départements comme les nôtres, comme le nôtre, conserver la place qui est nécessaire pour l'agriculture d'élevage. Et la PAC a fait l'objet de négociations très âpres. Je crois qu'à l'arrivée, un département comme l'Aveyron peut plutôt se satisfaire du fait que ses particularités, en particulier le fait que nous sommes, tout le département est en zone dite de montagne, et donc, grâce à la PAC, est compensé pour, évidemment, les contraintes qu'inflige le territoire de montagne aux différentes productions. Là encore, on peut toujours mieux faire, mais je crois aussi qu'il faut savoir, dans la durée d'une PAC, tirer le meilleur de ce qui est proposé et faire en sorte que d'emblée maintenant, on travaille sur la PAC suivante avec l'enjeu majeur, je pense, du renouvellement des générations dans un contexte aussi où on voit que le développement...
C'est très important.
Et oui, où on voit que le développement durable, l'éco-construction de la politique agricole, elle va peser lourd.
Juste un dernier mot sur Julien de Normandie qui a présenté sa feuille de route. On parle beaucoup d'agriculture et de numérique et de technologie. Beaucoup de territoires aujourd'hui sont encore en zone blanche. Est-ce que c'est pas mettre un peu la charrue avant les bœufs, finalement ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que tous les territoires, et en l'occurrence l'Aveyron, puissent avoir accès justement à ce numérique facilement ?
Alors, l'Aveyron est en train d'achever le fibrage.
Oui.
Donc, mi-2023, tous les Aveyronnais disposeront de la fibre, ce qui fait évidemment de ce sujet un atout pour un département comme le nôtre. L'agriculture et le numérique, tous les sujets sont demain liés au numérique. Mais je pense qu'il faut bien mesurer une chose, si on veut avoir des produits de qualité dans nos assiettes demain, il faudra, au-delà du virtuel et du numérique, des femmes et des hommes qui travaillent, qui s'occupent de leurs troupeaux, qui s'occupent de leurs terres. Et ça, de toutes les manières, le virage numérique ne résoudra pas la question du savoir-faire, de la compétence et de la main-d'œuvre. Mmh. L'agriculture, c'est d'abord et avant tout le contact entre l'humain et le monde animal et le monde végétal. Et ça, en Aveyron, nous, on est très, très, très soucieux de promouvoir ce modèle et de faire en sorte que les jeunes générations, d'abord aveyronnaises, mais aussi ceux qui viennent de l'extérieur, comprennent que ce ne sont pas que des métiers d'astreinte, de difficulté, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui se perpétue à travers ces actes.
Et la transmission aussi.
Arnaud Viala, merci beaucoup, président du département de l'Aveyron. Merci à vous aussi, Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Merci à vous. Et puis, on le rappelle, vraies voix de Philippe David en direct depuis le stand de l'Aveyron, donc au Salon de l'agriculture, à partir de 17h cet après-midi sur Sud Radio. Merci à vous, messieurs.
Et on reste ensemble jusqu'à
10h. Et avec Eric Revel, toujours avec nous.
Absolument, avec Eric Revel, toujours avec nous. On reviendra sur la fermeture de l'espace aérien de l'Europe aux avions provenant de Russie. Et puis à partir de 9h30, on verra comment mener une campagne pour les présidentielles alors que la guerre est aux portes de l'Europe. On en parlera avec deux spécialistes. Vous voulez intervenir et poser des questions, 0826 300 300. Vous attend au standard. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaize, Cécile Deménibus.
Il est 9h24, toujours avec Eric Revel et les grands débats ce matin, la fermeture de l'espace aérien de l'Europe aux avions provenant de Russie. Pour en témoigner, un journaliste de la revue Conflit est avec nous, Louis-Marie de Pontbriand, est avec nous. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin pour évoquer effectivement ce que vous avez vécu, puisque vous avez subi d'une certaine façon l'une des premières sanctions finalement imposées à la Russie par les pays de l'Union européenne, à savoir cette fermeture de leur espace aérien aux avions venant de Russie. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous, comment vous l'avez vécu.
Oui, bien sûr. Écoutez, moi, j'étais en reportage pour la revue Conflit au Kazakhstan et pour mon vol qui me ramenait du Kazakhstan jusqu'à la France, je faisais une escale à Moscou où je prenais la compagnie Aeroflot, donc la principale compagnie russe. Mm-hmm. Et sur mon chemin de Moscou jusqu'à Paris, vers la moitié du trajet, le président Macron a décidé de fermer l'espace aérien pour les compagnies russes.
Vous étiez en plein vol.
C'était en plein vol, vraiment au milieu du trajet. Mm. Et donc, nous avons dû faire demi-tour vers Moscou.
Et ça se passe comment quand on est à bord de cet avion, les réactions des autres passagers et même la vôtre? J'imagine qu'on est, pour le coup, assez surpris, inquiet.
Écoutez, oui, il y avait beaucoup de surprises, beaucoup d'inquiétude aussi, c'est sûr, parce que bon, il n'y avait pas de préavis sur le site des ambassades la veille, il n'y avait absolument rien marqué. Et donc, oui. Forcément, les gens se font des idées, on a l'impression qu'on va servir de monnaie d'échange au retour à Moscou. Mais bon, finalement, ça s'est quand même plutôt très bien passé.
C'est-à-dire, alors du coup, vous êtes arrivé, vous êtes retourné en Russie, et là, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, on est retourné en Russie, on a eu beaucoup de problèmes logistiques, parce que comme on n'avait pas de visa russe, il fallait qu'on puisse récupérer nos valises, donc ça a été toute une histoire. Et puis après, on a dû passer par Dubaï avant de revenir à Paris.
D'accord. Est-ce que vous avez été pris en charge par les services consulaires, par hasard, par exemple?
Non, pas du tout. On était un petit peu livrés à nous-mêmes, mais on a été très bien pris en charge, en revanche, par la compagnie aérienne russe qui nous a proposé certaines choses pour pouvoir rentrer plus facilement.
Vous avez eu contact aussi avec les autorités russes, avec des Russes au niveau de l'aéroport. Comment ça se passait à ce niveau-là, dans l'attente?
Écoutez, oui, on a été en contact avec les douaniers, qu'il fallait qu'on puisse récupérer nos valises.
Bien sûr.
Donc ça a pris un certain temps, on a été un petit peu interrogé, mais rien d'exceptionnel non plus.
Interrogé sur quoi ? Sur quel type de questions ?
En fait, c'était vraiment un problème logistique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on récupère nos valises et que les valises étaient derrière la douane. Comme on n'avait pas de visa, on ne pouvait pas passer la douane. Et donc, il a fallu qu'on négocie avec eux pour que quelqu'un puisse transférer nos valises sur notre vol qui nous amenait vers Dubaï.
Vous avez vu que l'aéroport, hein, à ce moment-là, il y avait quand même une ambiance particulière ou pas ? C'est vrai qu'on a peu de retours de ce qui se passe en ce moment en Russie. Ils sont peu nombreux à prendre la parole. C'est difficile. Vous avez eu une impression particulière de l'ambiance qu'il y avait ou c'était compliqué ? Voilà, c'est dans l'aéroport et forcément, c'est un peu à part.
Écoutez, non, je ne pense pas qu'on puisse prendre réellement le thermomètre de ce qui se passe en Russie dans l'aéroport. C'est sûr, parce qu'il y a essentiellement des étrangers. Mais en revanche, c'était assez intéressant de voir qu'au sein de l'avion, il y avait beaucoup d'Européens, notamment les équipes d'escrime qui étaient à Sochi et qui ont dû également trouver d'autres vols pour rentrer en Europe. Donc non, il y avait surtout effectivement un petit peu d'inquiétude au sein des passagers. Mais finalement, tout s'est très bien passé et on a tous pu rentrer en France dans des conditions tout à fait normales.
Avec un sentiment en tout cas un peu d'abandon du côté des services consulaires quand même, quoi. Sur le moment.
Écoutez, d'abandon, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas du tout été prévenus. C'est que la veille, sur le site de l'ambassade, il n'y avait pratiquement rien qui concernait le conflit avec l'Ukraine. Donc on pensait qu'on allait rentrer extrêmement tranquillement.
Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes rentré et que tout va bien pour vous. Et c'est le principal, Louis-Marie de Pontbriand. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, journaliste à la revue Conflit. Je vous souhaite une bonne journée.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à vous.
Merci d'être avec nous en tout cas. Et dans un instant, on va revenir sur les présidentielles 2022.
Oui, c'est dans moins de 40 jours.
La vérité en face, c'est comment mener une campagne justement dans le cadre des présidentielles alors que la guerre est aux portes de l'Europe.
Vous avez une réponse, vous ou pas, Cécile, à cette question ? C'est une grande question.
Je vais réfléchir. Ouais. En tout cas, on posera la question à nos invités ce matin. Jean Garrigue sera avec nous, historien, président du comité d'histoire parlementaire. Et puis Olivier D'Artigol. Ancien porte-parole du Parti communiste français, conseiller municipal de Pau. Et vos appels, 0826-300-300, est-ce que vous pensez qu'effectivement la démocratie est amputée ? Est-ce que vous avez peur de l'abstentionnisme ? Est-ce que vous avez peur justement que les candidats ne puissent pas s'exprimer ? Est-ce que Emmanuel Macron doit se présenter ou annoncer sa candidature ? Vous nous appelez 0826-300-300 et on vous attend au standard jusqu'à 10h. À tout de suite.